La justice poursuit le traitement des émeutes. Ce matin, 5 personnes accusées de vol comparaissent devant le tribunal correctionnel. Une période des émeutes qui a marqué le directeur de cabinet du haut-commissaire Théophile de Lassus s'apprête à quitter le territoire. Il était ce matin notre invité. La culture de la luzerne s'avère prometteuse. Une expérimentation est menée en province nord chez un agriculteur de Pointe-Boute. L'actualité en métropole, Pierre Palmade ira en prison. L'ex-humoriste a été condamné pour le grave accident qu'il avait provoqué alors qu'il roulait drogué. Et puis en sport, la famille Arnaud s'engage dans le football. Antoine Arnaud est en train de finaliser le rachat du Paris FC, l'autre club de la capitale, actuellement leader de Ligue 2. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Deux listes s'affrontent pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie. Deux listes dont nous recevrons les représentants dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dès la fin de ce journal. Quels sont leurs programmes? Où se situent leurs différences? Nous recevrons Alexandre Rodriguez et Marie-Amélie Molia pour la liste Alliance pour la relance et deux élus sortants de la liste Une Chambre pour tous, Ensemble pour réformer et reconstruire. David Guyenne et Stéphane Yotto. Nous entendrons également Fabrice Lecomte qui se présente lui en candidat libre sans liste pour cette élection. Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à retrouver donc dès la fin de ce journal. La justice continue de traiter les dossiers liés aux émeutes et ce matin, le tribunal correctionnel juge 5 personnes accusées de vol à la station Total Riviera de Tontuta. C'était au tout début des émeutes, le 14 mai dernier, Léana Colombo.
Oui, c'est au plus fort des émeutes du mois de mai que 5 jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années sont entrés dans la station-service située près du rond-point Benzi. Un homme présent devant la station nous a dit de nous servir et que tout était gratuit, déclare l'un des accusés. Les 5 individus qui ne se connaissaient pas sont alors entrés et ont pris de la nourriture, des boissons et des recharges de cigarettes électroniques. À peine sont-ils ressortis avec leur butin qu'ils ont été arrêtés par la police avec un 6e accusé, mineur au moment des faits. Les 5 jeunes, presque tous connus des services de police, ont reconnu les faits et nié quelconque dégradation des lieux. Nous avons affaire à des opportunistes dans une période mouvementée plutôt qu'à des délinquants venus saccager et mettre le feu. Il faut toutefois une sanction, car si nous en sommes arrivés là, c'est à cause de citoyens qui se sont laissés aller à ce genre de comportement, a souligné la procureure générale de la République, Fabienne Coupry. Le tribunal correctionnel a donc jugé coupable de vol les 5 individus et a suivi les réquisitions de la procureure. 2 des accusés ont été condamnés à 90 heures de travaux d'intérêt général, 2 autres à une peine de jour amende de 3 mois, d'un montant total de 72 000 et 63 000 francs. Le dernier individu ayant un casier judiciaire lourd écope d'une peine de 3 mois d'emprisonnement sans aménagement de peine et une amende de 50 000 francs. Tous devront payer la somme totale de 100 000 francs à se partager en dédommagement pour le préjudice porté à la station-service. Au tribunal de Nouméa, Léana Colombo, RRB.
Cette période des émeutes a particulièrement marqué Théophile de Lassus. Arrivé en février 2023, le directeur de cabinet du haut-commissaire quitte ses fonctions après un peu moins de 2 ans de présence. Et il en a dressé un bilan ce matin sur Radio Rythme Bleu, Elisabeth Noir.
Un séjour très éprouvant en effet pour le directeur de cabinet du haut-commissaire puisqu'il a été marqué, vous le disiez, par les violences insurrectionnelles qui ont débuté le 13 mai. Nous lui avons demandé ce qui l'avait le plus marqué pendant ces 6 derniers mois.
D'abord, c'est le courage et la résilience des Calédoniens. Et je veux vraiment le saluer. Au milieu de toutes ces maisons, de toutes ces entreprises bâties parfois durant une vie brûlée, au milieu de toutes ces vies brisées et perdues, ce qui m'a marqué, c'est cette dignité des Calédoniens qui, malgré tout, reste debout. Et c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Et puis, une deuxième chose, évidemment, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est saluer le courage exceptionnel des policiers et des gendarmes avec qui j'ai passé le plus clair de mon temps au cours de ces 6 derniers mois, appuyés par plein d'autres services. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie, les douanes, le centre pénitentiaire, la police municipale, les pompiers évidemment, mais le travail qu'ont fait les policiers et les gendarmes, c'est vraiment une série d'actes de bravoure et j'insiste là-dessus. Alors on l'a peut-être un peu moins mise en valeur parce qu'il y avait beaucoup d'humilité de leur part et puis surtout cette souffrance des Calédoniens, mais pour avoir été à leur contact en permanence, je peux vraiment vous en assurer et saluer en particulier la mémoire de 2 personnes, de 2 gendarmes, Nicolas Molinari, je le rappelle, 22 ans, tué d'une balle entre les 2 yeux début mai au Mont d'Or Sud, et puis le gendarme Xavier Salou qui se préparait à aller à Saint-Michel.
L'une des missions essentielles d'un directeur de cabinet, c'est la politique de sécurité et l'ordre public. Une mission qui aura bien sûr largement occupé Théophile de Lassus ces derniers mois.
Ça a pris tout mon temps, toutes mes nuits, tous mes jours, sous l'autorité du haut-commissaire que je veux remercier vraiment pour son action et pour la confiance qu'il m'a accordée. Mon travail, c'était de coordonner les forces de sécurité intérieure, de faire en sorte que les instructions du haut-commissaire soient bien répercutées, qu'ils aient des orientations claires, qu'ils aient les moyens dont ils ont besoin par la suite, hein, en faisant venir un certain nombre de renforts, et puis de coordonner l'ensemble des services, les pompiers, de se coordonner avec les services du gouvernement, avec les services médicaux, la question du réapprovisionnement, la question du pont aérien entre Magenta et Tantouta, entre Tantouta et la métropole. Bref, énormément de sujets, le contact avec les élus, le contact aussi avec les responsables coutumiers dans un deuxième temps où j'ai fait le tour de toute la Grande Terre avec la gendarmerie à la demande du haut-commissaire justement pour renouer le dialogue avec un certain nombre d'entre eux, expliquer notre action et avoir des messages très clairs et très fermes à leur égard. Et donc voilà, beaucoup de travail dans de très nombreux sujets.
Autre mission assumée par Théophile de la Suspense, son séjour de 22 mois en Nouvelle-Calédonie, la préparation et le suivi des visites de personnalités. Et ces visites officielles ont été particulièrement nombreuses depuis février 2023.
D'abord, c'est vrai qu'on en a eu énormément, et à chaque fois de ministres régaliens ou de ministres étrangers. Celles qui m'ont laissé le plus de souvenirs, c'est évidemment les visites du président de la République. La première, qui est, je vous rappelle, ce grand discours, place des Cocotiers, devant 10 000 personnes, ce qui nécessite une organisation très importante. La deuxième, en plein mouvement insurrectionnel, c'est aussi un enjeu de taille. Et puis, évidemment, toute visite du ministre de l'Intérieur, c'est près d'un mois de présence cumulée de Gérald Darmanin sur le territoire. Donc, ça, on apprend à se connaître avec ses équipes, à travailler vraiment très étroitement. Et puis, dernière visite qui marque, c'est évidemment celle des premiers ministres étrangers, ceux du Forum des îles du Pacifique, parce qu'elle est très difficile à monter. Trois premiers ministres, un ministre des Affaires étrangères, un secrétaire général du FIP, il faut arriver à coordonner toutes ces volontés, tous ces agendas pour essayer de faire atterrir quelque chose. Mais ce que je veux dire sur toutes ces visites officielles, et c'est ça qui est important, c'est que ici en Calédonie, plus particulièrement, elles ont beaucoup de sens. Les ministres qui viennent, ou le président de la République, ou les ministres étrangers, ils viennent vraiment pour quelque chose, ils viennent pas pour faire du tourisme, ils viennent pour essayer d'aider les Calédoniens, pour essayer de faire avancer les dossiers, et donc travailler sur ces visites officielles a été à chaque fois passionnant.
Théophile de la Suisse qui se dit très ému et très reconnaissant au terme de ce séjour, alors que ses fonctions de directeur de cabinet du haut-commissaire sont seulement le deuxième poste de sa carrière. Il va maintenant rejoindre Paris où il a été nommé au ministère de l'Intérieur à la direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur. Il s'y occupera essentiellement de la gestion et des budgets des services de l'État.
Une interview de Théophile de la Suisse que vous pouvez réécouter et visionner évidemment sur le site de Radio Rythme Bleu. Retour à l'actualité judiciaire maintenant avec cette nouvelle affaire jugée depuis ce matin devant la cour d'assises de Nouméa. Deux hommes sont accusés d'avoir tué un membre de leur famille. L'un est le propre frère de la victime, l'autre son cousin. Et une fois encore Nicolas Legrand, une alcoolisation massive est à l'origine de ce drame.
Oui, une histoire tristement banale. Nous sommes le 20 juin 2021, jour de la fête des pères. La famille est alors réunie à la plage de Magenta et c'est une fête extrêmement arrosée qui s'y déroule. La victime, qui présentait un taux de 3 grammes d'alcool par litre de sang, aurait insulté sa mère qui lui demandait de rentrer. Excédée par ses injures, la mère a demandé à l'un de ses fils de le régler. S'ensuit un échange de coups auquel a également participé l'un des cousins. La victime décédera des suites de ses blessures. Après un rapide rappel des faits ce matin, les juges se sont intéressés à la personnalité des deux co-accusés qui comparaissent libres. Ils répondent sereinement aux questions sur leur parcours scolaire ou encore sur leur vie familiale. L'un d'eux reconnaît par exemple une habitude de consommation d'alcool dans un contexte festif. Il reconnaît également quelques faits de violence sur des membres de sa famille lorsqu'il a bu. Mais son casier judiciaire est vierge. Un jeune de 29 ans, marqué par un drame similaire un an plus tôt. Son père biologique, puisqu'il a été adopté, a été tué dans une bagarre avec un oncle à Ouvéa. Là aussi, dans un contexte d'alcoolisation. L'affaire doit donc être jugée sur 2 jours. Le verdict est attendu demain. Au tribunal de Nouméa, Nicolas Legrand, RRB.
Et puis toujours au chapitre des faits divers, un garage et une agence de location de véhicules victimes des flammes hier à Lifou. Le sinistre est intervenu en milieu de journée à proximité du centre de secours de Lille. Intervention complexe pour les pompiers mobilisés en raison de carburant et de l'huile qui se sont embrasés. L'un des bâtiments a été entièrement détruit, l'autre partiellement. Plusieurs véhicules ont également été touchés et la quincaillerie à proximité a été menacée. Mais selon les autorités locales, le feu serait d'origine accidentelle. Une enquête est toutefois en cours et des techniciens ont été envoyés sur place aujourd'hui pour réaliser des expertises. Il est 11h40, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Depuis quand tu fais autant les magasins?
J'ai trouvé le secret pour dépenser moins.
Ah ouais? T'as gagné au bingo ou quoi?
Mieux que ça, j'ai découvert l'appli MDF avec le pass MDF. Ça te donne accès à des tarifs avantageux.
Sérieux? T'as chopé ça où?
Vous êtes adhérent de la MDF? Alors téléchargez l'application dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mdf.nc.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La 106e édition du Congrès des maires se poursuit à Paris en présence de trois maires calédoniens, Pascal Vittori, Wilfried Weiss et Florence Rolland. Ils ont accueilli avec soulagement l'annonce de l'aide financière que l'État va apporter à la Nouvelle-Calédonie. Une partie de cette manne financière va être dirigée vers les communes, souligne Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires.
Oui, bien sûr, parce que déjà dans cette enveloppe qui va être attribuée par l'État à la Nouvelle-Calédonie, il y a les besoins des communes pour ce qui n'a pas été versé en 2024. Et donc ça, c'est très important, puisque par exemple, sur la fiscalité et les centimes additionnels, le gouvernement n'a pas versé son dû depuis le mois de mars, qui a mis les communes en grande difficulté au niveau de leur budget de fonctionnement. Donc là, il est prévu qu'avant la fin de l'année, les communes puissent se voir verser le reliquat de ce qu'elles n'ont pas pu avoir en 2024. Ça va permettre aux communes de préparer le début d'année 2025 avec beaucoup plus de sérénité. Les budgets de fonctionnement, c'est l'eau, l'électricité, le paiement des salaires, mais c'est aussi le ramassage scolaire, les cantines scolaires, l'éclairage public, le ramassage des poubelles ou de dépenses qui touchent directement nos habitants.
Le Congrès des maires est aussi l'occasion de nombreuses tables rondes sur des thèmes très divers comme la gestion de l'eau, le droit des élus ou le changement climatique. Hier, le maire de Coumac, Wilfried Weiss, a participé à un débat sur le recul du trait de côte, un phénomène qui affecte aujourd'hui 22% du littoral français. Wilfried Weiss a convaincu le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité et l'aménagement, de reprendre la cartographie complète en trois dimensions des côtes calédoniennes, un projet abandonné il y a quelques années.
Le trait de côte, quand même, c'était une réelle préoccupation. En 2011, il y avait déjà eu une mobilisation des élus à ce sujet. Et normalement, en 2021, il devait y avoir une opération pour faire ce qu'on appelle un référentiel du littoral de Nouvelle-Calédonie. On a des communes qui sont touchées, des communes de la côte est et aussi des communes des îles, des communes du sud. Je pense à Thiot, Yaté, etc. Et ce programme a été abandonné. Donc aujourd'hui, dans la mesure où on n'a pas ces relevés du littoral, le CEREMA que j'avais contacté moi depuis 2021-2022, je suis revenu les voir et encore cette semaine, eux, ils sont prêts à nous faire le travail ainsi que les préconisations qui vont avec pour pouvoir mettre en œuvre les financements, etc.
Des propos recueillis par notre correspondante à Paris, Xavier Robert. Le Congrès des maires s'achèvera la nuit prochaine pour nous avec le discours très attendu de clôture du Premier ministre Michel Barnier.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Dans la perspective des discussions sur l'avenir, êtes-vous favorable à l'union des partisans de la France au sein d'un seul parti qui ressemblerait à ce qu'était le RPCR? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Si vous n'y êtes pas favorable, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS regrettent que le président du Sénat ait parlé de souveraineté partagée lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 9% à ne pas le regretter. L'actualité en Calédonie toujours, et le domaine agricole continue d'innover. Depuis plus d'un an maintenant, la culture de la luzerne est expérimentée sur le territoire. Cette légumineuse est utilisée dans l'agriculture mais aussi dans l'élevage. Et le résultat des tests sont présentés aujourd'hui à Pointe-Boute, Charlotte Coulson.
C'est une plante aux multiples bénéfices. Elle améliore la qualité du sol. Elle est très riche en protéines et en fibres et donc parfaite pour l'alimentation des bovins. Et pourtant, ce n'est qu'en juin 2023 que sa culture est expérimentée en Calédonie pour la première fois depuis 40 ans. C'est Roger Avril, agriculteur et éleveur de bovins à Pointe-Boute, qui a sollicité l'aide de la province nord, de la Technopole de Nouvelle-Calédonie et de l'agence rurale pour mettre en place une parcelle de luzerne dans ses champs.
Moi, je faisais du maïs. J'avais des problèmes de mauvaises herbes qu'on peut gérer chimiquement. Mais ça me gênait un peu, que ce soit un peu trop répétitif. Tout seul, j'ai décidé de faire un peu des rotations de culture plutôt que de faire de la monoculture de maïs sur ma parcelle. J'ai décidé d'intégrer dans ma rotation de la luzerne. Elle a beaucoup, beaucoup d'intérêt, cette plante. C'est que c'est une légumineuse, c'est très riche au niveau des protéines et puis de l'énergie pour le bétail. Donc c'est vraiment un bois de haute qualité. Ça améliore le sol, ça a une vitesse de croissance qui est phénoménale, c'est impressionnant. Et puis, c'est maintenant que ça devient intéressant à suivre. C'est pour ça que la journée technique, ben, c'est bien, parce qu'il y a plein de gens qui sont là. C'est aussi pour partager avec le pays, quoi. Il y a beaucoup d'institutions, mais il y a pas mal d'agriculteurs. Il y a même des producteurs du Sud qui sont là. Il y a des techniciens du Sud qui sont là. Enfin, c'est intéressant. Ouais, il y a pas mal de personnes.
Et les résultats de cet essai sont donc présentés aujourd'hui. Les producteurs présents à Pointe-Boute peuvent visiter les champs, assister à une démonstration d'implantation ou bien participer à plusieurs ateliers sur la culture de la plante. Le but est bien sûr à terme d'encourager d'autres agriculteurs et éleveurs à utiliser la luzerne dans leurs plantations.
L'actualité dans la région maintenant avec des actes antisémites dans la banlieue de Sydney. Ils ont eu lieu cette nuit et une enquête a été ouverte. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces incidents ont eu pour cadre Woollahra, un important quartier juif dans la banlieue est de Sydney. Une voiture y a été détruite après avoir été incendiée et plusieurs autres ont été taguées et couvertes de slogans antisémites particulièrement insultants. La police criminelle a bouclé le quartier et lancé une enquête afin de retrouver le ou les auteurs de ces exactions. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h47, dans un petit instant. Après la pause, ce sera l'actualité en métropole et la condamnation à l'encontre de Pierre Palmade qui ira en prison.
RRB, 11h13, Infomag, Jean-François Bodin.
Réouverture de la Maison du Pain Calédonien, votre boulangerie du PK4 au 186 rue Jacques Yekaoué. Venez vite redécouvrir votre boulangerie et retrouver nos pains fraîchement sortis du four dès 6h du lundi au samedi. Et retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook Le 4.
Complexe Le 4 au 186 rue Jacques Yekaoué. Faites vos courses autrement.
Grande nouvelle! Votre showroom automobile Automotors à Magenta réouvre ses portes. Venez découvrir les tout derniers modèles des marques Shangan, DFM et Geely. Des offres exceptionnelles vous attendent. Rendez-vous dans votre showroom Automotors à Magenta en face de l'As de Trèfle. Nous sommes impatients de vous retrouver.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Jean-François Baudin.
Et Pierre Palmade va aller en prison. L'ex-humoriste était jugé par le tribunal correctionnel de Melun 21 mois après le grave accident de la circulation qu'il a provoqué alors qu'il conduisait en ayant consommé des stupéfiants. Il avait percuté une voiture avec trois personnes d'une même famille à bord qui portent encore les séquelles de l'accident. La mère de famille, enceinte au moment des faits, avait perdu son bébé de 6 mois. Pierre Palmade comparaissait donc pour blessures involontaires aggravées et à l'issue d'une longue journée, le tribunal l'a condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Les jurés ont finalement suivi les réquisitions du parquet. Vous l'avez dit donc, 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, avec mandat de dépôt à effet différé, comprenez. Pierre Palmade n'est pas écroué ce soir. Il ressort libre et sera convoqué devant le juge des libertés dans une dizaine de jours à Bordeaux pour savoir quand et où il sera incarcéré. Il pourrait également être placé sous bracelet électronique si ses problèmes de santé reviennent. Pierre Palmade bouleversé à la barre cet après-midi, le regard souvent dans le vide. Je leur demande pardon, pardon du plus profond de mon cœur, a lancé l'ancien humoriste aux 3 victimes. Des excuses jugées peu convaincantes par les parties civiles. Mes clients ont perdu le goût à la vie, a souligné leur avocat Maître Bétic, lorsque de son côté, Pierre Palmade dit avoir envie de revivre un face-à-face que la justice a ainsi tranché. Pierre Palmade condamné, mais à une peine bien en deçà des 14 ans de prison qu'il encourait.
Une journée d'audience qui a été longue pour les 3 victimes. Maître Mourad Bélik, l'avocat des parties civiles, l'a confirmé à l'issue de l'audience.
Ça a été une longue journée pour mes clients, une journée où ça a été évidemment dur émotionnellement pour eux. C'était une journée très longue aussi. Ils sont satisfaits de la tenue des débats. Je crois que chacun a pu donner son point de vue, chacun a pu exprimer ce qu'il a ressenti avant, pendant et après cette journée dramatique. Et en ça, nous sommes satisfaits. Sur la peine, nous n'avions pas d'attente parce que nous sommes les parties civiles. C'est le ministère public qui requiert et c'est le tribunal qui prononce une peine. Le tribunal a écouté, le tribunal a tranché, le tribunal a arbitré. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la peine.
Pierre Palmade sera convoqué dans une dizaine de jours donc par la justice pour savoir où il effectuera sa peine de prison. L'actualité en métropole, c'est aussi la poursuite du mouvement des agriculteurs. Depuis que la Confédération paysanne a rejoint ce mouvement lancé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les actions se durcissent, le port de commerce de Bordeaux est toujours totalement bloqué et les membres de la Confédération paysanne ont bloqué également plusieurs centrales d'achat de la grande distribution, surtout dans le sud-ouest. C'est le cas à Bressols près de Montauban. Alexis Bourdon pour Europe 1.
La cinquantaine d'agriculteurs qui occupaient le site a levé le camp un peu avant 20h sur ordre des policiers et gendarmes présents. Durant toute l'après-midi, à l'aide de leurs tracteurs, ils ont bloqué l'entrée et la sortie de la centrale d'achat qui se trouve juste derrière moi. Une cible qui ne devait rien au hasard, selon Serge Bousquet-Cassagne, l'une des figures de la contestation agricole.
Pour être efficace, il faut fermer les gros. Hein. Intermarché, c'est une des trois principales centrales d'achat de France. Demain, après-demain, petit à petit, les rayons des supermarchés vont se vider et les Français vont se rendre compte plus de paysans, plus rien à manger, sinon de la merde.
En partant, les agriculteurs ont allumé des feux à partir de pneus usés et d'autres déchets. Une équipe de la gendarmerie et un camion de pompiers sont rapidement intervenus pour sécuriser le site. Mais le départ des agriculteurs ne signifie pas pour autant la fin de la contestation en Occitanie, puisque la coordination rurale de l'Aveyron devrait bloquer une autre centrale d'achat du côté d'Albi.
Et puis un mot d'actualité à l'étranger. Kiev affirme avoir mené une nouvelle attaque de missiles longue portée sur le sol russe. Hier, les Ukrainiens avaient utilisé des missiles américains. Cette fois-ci, ils ont utilisé des missiles britanniques après accord de Londres. Information qui n'a officiellement pas été confirmée ni par les Britanniques ni par les Russes. 11h52, on se retrouve après la dernière pause de ce journal pour parler de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Événement littéraire à l'Amirauté, le samedi 23 novembre de 9h à 16h. Le premier SAO, salon des auteurs en off. Débat histoire à 10h, débat média à 14h. Conteuse, atelier d'écriture, exposition de Stéphane Foucault, une vingtaine d'auteurs présents. Le samedi 23 novembre à l'Amirauté. Viens rencontrer un auteur et croquer un bon livre. Venez nombreux au premier SAO.
1 million. 1 million de francs en bons d'achat à gagner sur RRB. Pour jouer, envoyez maintenant RRB au 40-20.
Tirage au sort le 30 novembre parmi tous les SMS.
1 million en bons d'achat à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. Sans oublier les 100 000 francs de bons d'achat qui continuent de tomber chaque semaine. Alors n'attendez plus, RRB au 40-20.
371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio.
RRB, première radio d'information.
La suite InfoMag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Alors le sport, c'est d'abord du rugby et Fabien Galthié qui a dévoilé sa liste pour affronter l'Argentine samedi matin au Stade de France. Le sélectionneur a décidé de donner sa première chance aux troisième lignes, Marco Gazzotti, pour cette rencontre. Parmi les autres changements toujours en troisième ligne, Charles Olivon a été préféré à Grégory Aldrit. Quant à Léo Barré, il sera titulaire à l'arrière après le forfait de Romain Burros, blessé. On signalera dans le 15 de départ la présence des Calédoniens Peato Mauvaka et Yoram Moefana. En football, les nouvelles ambitions du Paris FC, actuellement en tête de Ligue 2. De nouvelles ambitions avec un nouveau propriétaire annoncé. Il s'agit du groupe LVMH, donc de la famille Arnaud. Antoine Arnaud est en train de finaliser le rachat. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Antoine Arnaud a expliqué être passionné de football depuis l'âge de 10 ans. Questionné par Europe 1 lors de cette conférence de presse, l'homme d'affaires de 47 ans affirme ne pas vouloir gagner de l'argent avec cet investissement dans le football. L'objectif est de propulser le Paris FC, actuel leader de Ligue 2, en haut de la Ligue 1 et d'en faire le deuxième club parisien.
Ce n'est pas un coup qu'on est en train de faire. C'est vraiment un investissement sur le temps long pour d'abord monter et ensuite devenir une bonne équipe de Ligue 1, puis essayer d'aller gratter une des places européennes.
La famille Arnaud, qui détiendra d'ici 3 ans 80% des parts du Paris FC, s'associe à Red Bull, qui possède plusieurs clubs, notamment Leipzig en Allemagne. Le nouveau propriétaire peut s'appuyer sur le légendaire Rai, ancien joueur du PSG et actuel ambassadeur du Paris Football Club.
C'est historique pour la ville, pour le foot français. J'ai contribué à notre club des Paris et là j'ai fait partie aussi de notre projet très, très ambitieux qui passe à notre cap. Un début d'une belle histoire.
Enfin, malgré sa vétusté, un déménagement du stade Charletti n'est pas à l'ordre du jour.
Et puis football dans la région, pour vous signaler que la sélection calédonienne retrouvera Tahiti en demi-finale des qualifications océaniennes pour la Coupe du Monde 2026. Les Calédoniens ont terminé premiers de leur groupe et se sont donc qualifiés pour la suite de la compétition en compagnie des Fidji. La Nouvelle-Calédonie rencontrera donc Tahiti, auteur de 2 victoires sur ses phases de qualification en mars prochain en Nouvelle-Zélande. Et puis en tennis, 5e sacre pour l'Italie ce matin lors de la finale de la Billie Jean King Cup à Malaga en Espagne. C'est la numéro 4 mondiale, Jasmine Yasmine Paolini qui a donné le point gagnant à son pays grâce à sa victoire en 2-7 sur la Slovaque Rebecca Smarukova. La dernière victoire de l'Italie dans cette compétition remontait à 2013. Et on termine avec de la voile. Et le Français Sébastien Simon qui a repris la tête du Vendée Globe. Il passe désormais devant l'Anglais Sam Gottschild qui dominait la course depuis mardi. Un top 5 très serré, réuni seulement en 30 000 nautiques. Les deux leaders se suivent à quelques 1 000 nautiques de différence seulement et sont entrés dans la zone du poteau noir.